Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Bonjour Joël Arsenault.
Oui, bonjour Antoine.
Député des Îles-de-la-Madeleine du Parti québécois. Je regarde sur mon iPhone, Joël, et il semble y avoir beaucoup de neige chez vous, alors qu'on pense qu'il n'y a pas d'hiver au Québec. Donc, c'est dur, je pense, actuellement. C'est une vraie tempête, là, aux Îles. On est, évidemment, jeudi. Il est 13h53 précise.
Oui, on aurait pensé que l'hiver était derrière nous, puis on n'a pas eu un gros hiver non plus aux Îles-de-la-Madeleine, mais aujourd'hui, ces tempêtes, il n'y avait pas de cours ni au primaire ni au secondaire, puis la plupart des bureaux là, professionnels, y compris le bureau du député, a fermé vers midi. Alors, c'est un dernier sursaut de l'hiver avant la suite.
Alors qu'à Québec, il fait un temps radieux. Mais on n'est pas là pour parler de la météo, Joël. Parlons de Nordvolt, ce projet-là qui est très contesté. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu le ministre de l'Environnement dire « Ben oui, effectivement, il n'y a pas de BAP parce que ça aurait retardé ce projet, ce grand projet de fabrique de batteries, là. »
Mais il y a là-dedans un aveu que la dissimulation puis les cachotteries, à un moment donné, là, ça suffit et que le gouvernement devait montrer patte blanche, devait en quelque sorte là, révéler son jeu. Mais en même temps, c'est un peu troublant de savoir que depuis 6 mois, on a essayé toutes sortes de par toutes sortes de façons de dissimuler la façon de faire pour favoriser la mise en œuvre du projet de façon rapide, sans respecter nécessairement les normes établies au Québec en matière environnementale et particulièrement l'assujettissement au BAP. Alors, à la fois, on n'est pas surpris parce qu'on voyait avec toute l'information qui était obtenue puis diffusée, notamment par des enquêtes journalistiques, que c'était un peu ça qu'on avait tenté de faire. Mais cet aveu-là est un peu troublant quand il vient, surtout quand il vient du ministre responsable de la protection de l'environnement puis de l'application des normes québécoises.
Mais au moins, il y a de la franchise, en fait. Enfin, est-ce qu'on peut pas accorder ça au gouvernement?
Ben, c'est un peu comme la personne, là, tu sais, l'enfant là, qui est retrouvé là, les mains dans les plats de bonbons alors que sa mère lui avait dit évidemment c'est juste pour les grandes occasions là. Puis là qui dit mais c'est vrai, tu sais, je le disais pas mais j'y viens à tous les jours à la fin de la journée là, me piger dans ce plat là. En fait, il est un peu pris en flagrant délit. Donc, il dit, ben oui, franchement, je vous le dis, là, on a tout fait pour convenir aux conditions de l'entreprise, mais on le savait déjà, puis c'est un aveu un peu de dernière minute, mais qui ne change rien au fond de l'histoire.
Et qu'est-ce que vous allez réclamer à la suite de cet aveu-là?
Ben, écoutez, moi, je pense que ce qui est troublant là-dedans, c'est que on semble dire que ce projet de loi-là, ce projet d'entreprise-là, il est à ce point important aux yeux du gouvernement que toutes les règles environnementales doivent être modifiées, y compris le processus, par exemple, d'évaluation par les biologistes du ministère. Et pour la suite également, il est fait en plusieurs étapes. Et on se demande jusqu'à quel point on peut avoir un traitement différencié, un traitement préférentiel pour des projets qui sont choisis par l'équipe gouvernementale comme étant les projets phares. Et ça crée chez moi une espèce de sentiment que on peut avoir un système à deux vitesses, des portes d'entrée dérobées par lesquelles des promoteurs pourraient obtenir gain de cause ou un traitement préférentiel. C'est en fait la remise en question de l'administration du ministère de l'Environnement puis de l'administration des programmes gouvernementaux qui moi je pense qui est ébranlé à travers ça. Il y a une confiance qu'on doit faire que le
mais qu'est-ce que vous réclamez là à partir de maintenant? Est-ce qu'il y a des gestes à poser de la part du gouvernement? Est-ce qu'il y a un BAP à tenir ou qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez?
Ben nous, on continue de penser qu'un BAP, c'était la façon de faire et ça peut être fait de façon rapide, pas nécessairement expéditive, mais qu'on peut accélérer la cadence. Puis
c'est possible un BAP accéléré. J'entendais Louis-Gilles Francaire, mon ancien collègue au Devoir, puis qui aussi vice-président du BAP, ex-vice-président du BAP, qui disait il aurait été possible de faire ça en 7 mois.
Exactement, puis on en parle depuis combien de temps, le projet de giga-usine de Northvolt, depuis au moins 6 ou 7 mois, donc ce serait déjà derrière nous probablement. C'est vrai que ça peut être fait de façon plus rapide, puis ça peut être fait aussi à la demande du ministre. C'est lui qui donne les mandats et qui peut donner les moyens et les outils pour qu'on arrive à en savoir davantage sur l'ensemble des impacts. On parle des impacts environnementaux, mais des impacts économiques, des impacts sociaux aussi, et par exemple sur le transport, sur l'habitation, sur l'environnement, mais l'environnement humain aussi, dans lequel il va s'inscrire, ou dans l'environnement même industriel ou manufacturier. Alors tout ça, c'est des données qu'on n'a pas. Le gouvernement les a peut-être en partie ou totalement, l'entreprise aussi, mais le fait qu'on veuille aller de façon par étapes, sans savoir quelle est l'étape suivante puis ses conséquences, ça nous donne à penser évidemment que on fait une certaine dissimulation, puis tout ça c'est pas sain ni pour je dirais le contexte socio-économique et politique, puis c'est pas sain pour le projet en tant que tel puis l'entreprise. Donc, on l'a dit souvent, c'est un peu comme si le gouvernement tirait dans le pied de l'entreprise lui-même en essayant de dissimuler l'information.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont rappeler que la dernière fois que le Parti québécois a été au pouvoir, il a autorisé une cimenterie sans BAP, justement, là, en Gaspésie?
Ouais,
qu'est-ce que vous
en
répondez
fait,
à ces gens-là? Je sais que vous n'étiez pas là à l'époque comme élu, mais quand même, c'est votre parti qui était au pouvoir.
Ouais, ben il y a plusieurs choses qui distinguent les deux dossiers. Moi, je ne veux pas rentrer dans le détail de l'époque, mais chose certaine, lorsque le gouvernement Marois a décidé d'aller de l'avant, ben ils l'ont fait de façon frontale. Ça a été fortement critiqué. Et le gouvernement a perdu l'élection qui a suivi. Il y a eu quand même une sanction à différents égards. Ça faisait probablement partie du décor.
Vous pensez que Pauline Marois a été défaite à cause de ça, entre autres?
Ben, en fait, c'est l'ensemble de l'œuvre. On se prononce sur le gouvernement à chaque élection sur un certain nombre d'enjeux. Puis les enjeux environnementaux, j'ose espérer, en ont fait partie et en font encore partie pour les prochaines élections.
Mm-hmm. Donc, l'usine mécaniste là, de béton, OK?
Ouais, mais moi, ce que je dis simplement, c'est que ça appartient au passé. La décision, elle a été prise en toute franchise avec des conséquences politiques et électorales qui ont suivi. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'ose espérer qu'on est ailleurs dans un projet dont on dit qu'il nous propulse vers un nouvel
avenir. Oui, parce qu'une cimenterie...
énergétique.
Mm-hmm. Une cimenterie, on n'est pas dans la transition, là, tellement. Oui. Au moins, les batteries, ça peut être salaud comme production, mais au moins, ça ultimement, ça aide à la transition.
Ben, ultimement, oui, mais la question est fondamentale aussi. Quand le ministre Charrette nous dit, ben là, il faudrait essentiellement fermer les yeux sur les conséquences environnementales de mise en œuvre et de mise en place de l'usine, parce qu'ultimement, mm-hmm. les batteries, c'est bon pour l'environnement. C'est pas clair que il faut saccager l'environnement de la rive sud de Montréal pour mieux négocier le virage écologique. Que les batteries soient produites près de Montréal, au Québec, j'en suis. Mais si elles étaient produites à Mississauga ou en banlieue de Buffalo, on pourrait faire on devrait faire la transition énergétique de toute façon. La batterie, elle est produite, la batterie, elle ne produit pas de mobilité durable. Les restes des pièces des voitures puis des camions, là, est-ce qu'elles sont produites là? En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai que c'est un projet à priori environnemental, c'est un projet manufacturier et industriel. C'est comme ça qu'il faut le voir, mais il a une dimension.
Mais si...
d'avenir.
Mais s'il l'avait échappé, si le ministre Fitzgibbon l'avait échappé, ce projet-là, justement parce qu'il avait dit il avait dit aux gens de Northvolt, il faut imposer le BAP, on n'a pas le choix, et que les gens de Northvolt étaient allés ailleurs, Est-ce que le Parti québécois et le Parti libéral n'auraient pas été les premiers à dire, ben voilà, c'est des mauvais négociateurs, on a échappé le projet du siècle, un peu comme on lui a reproché d'avoir échappé l'usine de Volkswagen?
Ouais, mais la question est hypothétique, mais vous avez raison de dire que l'euro.
Mais je vous imagine très bien faire un communiqué rageur. Ah, qu'il est, il est pourri, il a échappé le projet.
Ouais, ben, puis si on se rappelle de la CAQ dans l'opposition, on tirait sur tout ce qui bouge, puis maintenant on fait tout le contraire de ce qu'on dénonçait. Alors ça, il y a un peu de ça. Il y a de la politique, on l'admet, mais en même temps, c'est parce qu'on n'est pas non plus dans la négociation, dans le processus. Moi, la question que je pose par rapport aux négociations du gouvernement avec Northvolt à l'heure actuelle et du traitement privilégié qu'on lui offre, c'est de savoir sur quelle base on le fait. C'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que le gouvernement y investit des milliards de dollars, puis où est-ce qu'on trace la ligne entre un projet qui va suivre les règles et un projet qui va en déroger? Le nombre d'emplois que ça va créer, la perspective d'avenir ou de transition énergétique, quels sont les critères? Parce que si c'est simplement politique, c'est parce qu'on a réussi à travers le lobby qu'on a pu faire d'obtenir d'être dans les bonnes grâces du ministre, puis que c'est ça qui fait foi de tout, on a un sérieux problème. Parce qu'il
ça va créer
promoteurs.
Des précédents, peut-être.
Ben oui,
d'autres
absolument.
Promoteurs vont dire hey, « Moi aussi, je veux ce traitement-là, Royal. »
Puis il faut pas sous-estimer le fait que partout à travers le Québec, dans toutes les régions, il y a des gens qui sont en attente, parfois depuis 6 mois, parfois depuis 1 an et demi, pour des certificats d'autorisation où ils disent exactement la même chose que Northvolt à une autre échelle. Moi, ça crée des emplois, ça consolide l'impact économique de mon travail, de mon usine, de mon activité. Les médias en font écho sur une base régionale. Mmh. Les élus municipaux poussent pour ces projets-là. Et pourtant, le ministère dit non. Il faut que ça respecte les règles, à défaut de quoi, vous devez changer, modifier le projet. Et là, à l'heure actuelle, on change les règles en fonction du projet.
En terminant, pensez-vous que le commissaire au lobbyisme doit enquêter sur les rencontres qui n'ont pas été enregistrées entre Northvolt et le ministre avant que le projet soit annoncé?
Ben ça va de soi, je pense que le commissaire au lobbyisme, devant les informations qui ont été diffusées publiquement, fasse enquête. Donc on a toutes les raisons de penser que il y a eu du lobbyisme qui n'avait pas respecté les règles. Mais nous, je vous rappellerai que le 21 février dernier, on a aussi demandé au commissaire à l'environnement, sous l'autorité de la vérificatrice générale du Québec, de se pencher sur le dossier, à savoir si les principes du développement durable et la loi avait été respectée dans l'analyse qui a été faite du projet. Et puis là, aujourd'hui, on regarde la question là, du BAP et des règles d'application aussi, puis on se dit, là encore, ça prend une entité neutre qui vienne regarder de quelle façon on a pu constater ou pas une ingérence politique dans les règles habituelles d'évaluation et d'analyse d'un projet manufacturier.
Merci beaucoup, Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, et bonne chance dans la tempête.
Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.
Au revoir.